Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue. On continue aujourd'hui cette rencontre avec Djamila Djelloul, auteure du livre « Musulmane, Jésus m'a libérée ». Vous allez nous raconter le moment clé, la rencontre inattendue, bouleversante avec Jésus. Comment un simple regard vers lui a tout changé dans votre cœur, dans votre vie et au fond dans votre vision de l'humanité. Bonjour Djamila Djelloul.
Bonjour Nathalie.
Alors, ravie de vous retrouver. Alors comment, et ça c'est la grande question, on va vous écouter, comment avez-vous fait cette rencontre qui va venir bouleverser tout votre être ?
Alors ma rencontre, elle a été assez longue. Hein. Comme je vous ai dit la fois précédente, je suis de nature curieuse et moi je me suis toujours posé la question parce que c'est vrai qu'avoir appris que les chrétiens allaient en enfer et tous ceux qui n'étaient pas musulmans, quand j'ai vu l'accueil qu'on nous avait fait quand on est venu en France et surtout ces religieuses qui habitaient dans notre immeuble en Bretagne quand j'avais l'âge de 14-15 ans à l'époque, comment elles ont été là, présentes à aider mon père quand il s'est retrouvé au chômage. Et cette liasse d'argent qu'ils lui ont donné pour pouvoir s'acheter un véhicule parce qu'elle l'avait entendu dire j'aimerais avoir une voiture pour aller distribuer des journaux, pour arrondir mes fins de mois, etc. Et il n'avait pas les moyens et un jour une sœur est venue lui donner une enveloppe remplie de billets. Et là, à ce moment-là, moi je me suis tout de suite posé cette question en me disant mais si Allah va mettre ces personnes en enfer, c'est que c'est un Dieu injuste, à moins que ce que j'ai appris à l'école coranique est pur mensonge. Voilà. Donc j'ai eu un doute qui a été semé et c'est ce qui a fait que par la suite, j'ai voulu entreprendre des recherches vraiment pour savoir qui est ce Dieu que je priais. Est-ce que c'est le même ? Est-ce que les chrétiens ont pris le même Dieu ? Comment ça se fait ? Moi, je voyais vraiment la charité aussi chez les chrétiens qui étaient sincères. Il n'y avait rien en retour. On nous considérait comme des personnes, des bonnes personnes, alors que nous, au contraire, on pensait d'elles qu'elles allaient en enfer. Et ça me dérangeait un petit peu. Et j'ai dû me marier. J'étais très violentée par mon père. À l'âge de 17 ans, j'étais placée dans un foyer. Mon père avait surtout peur que je rencontre un jeune homme français et que je me marie. C'était le déshonneur de la famille. Il me menaçait toujours de me tuer si jamais il me voyait avec un garçon français. Ce qui m'a poussée à partir de la maison et d'abord placée dans un foyer et puis par la suite de me marier avec le premier homme qui s'est présenté à moi, qui simplement parce qu'il était musulman. Donc je l'ai accepté simplement pour faire plaisir à mes parents. Et cet homme, j'ai eu des enfants avec lui. Je me suis rendu compte qu'aussi il faisait partie des islamistes, hein, des frères musulmans d'Égypte. Mais bon, ça ne me dérangeait pas à l'époque. Et ça a été un jour où je commençais à lui poser des questions à lui aussi. Je me disais, il connaît beaucoup plus l'islam que moi. Il va peut-être répondre à toutes les questions que j'avais. Et finalement, quand je lui posais la question sur toutes ces grandes personnalités, la sœur Emmanuelle, la mère Teresa, dont j'entendais parler, est-ce que ces gens-là aussi vont aller en enfer ? Et un jour, il m'a répondu, je ne sais pas, Dieu lui-même, c'est lui qui jugera. Enfin, je me suis dit, il y a un doute, c'est oui ou non. Je n'avais pas de réponse concrète, moi. Je voulais savoir, connaître la vérité. Et au final, j'ai voulu entreprendre des recherches moi-même. Et je suis allée à l'Institut du monde arabe, hein, donc à Paris, dans une grande bibliothèque musulmane, arabo-musulmane. Et là, j'ai découvert d'abord des choses, enfin par la suite, vraiment des choses qui m'ont complètement choquée. Mon mari a pris aussi mes enfants, j'avais appris la Bible, il l'avait découvert, enfin voilà, ça a été le chaos.
Vous avez été trahi aussi, vous découvrez l'adultère aussi de votre époux.
Absolument. Et la Bible, pour moi, quand il l'a découvert, quand je l'ai pris pour la lire, lire. C'est vrai que j'étais plongée dans la lecture de la Bible qui m'a paru quelque chose qui était complètement cohérente avec ce Dieu que j'avais au fond de mon cœur. En fait, c'était comme quelque chose qui se connectait.
Alors, la Bible, puisque vous en parlez, c'est interdit chez les musulmans. Il ne faut pas en posséder.
Du tout.
Il
ne
faut pas trouver une Bible chez un musulman.
Non. Parce que pour eux, d'abord, c'est la Bible, elle est fausse, celle que nous avons ici, celle d'aujourd'hui, que soi-disant la Bible, la vraie Bible qui n'existe plus aujourd'hui, elle parlait du prophète Mohammed comme quoi c'est lui qui allait venir après Jésus. Donc comme Mohammed n'est pas donc annoncé dans les Bibles que nous avons aujourd'hui, eh bien forcément elle est fausse. Donc il ne faut pas la lire. Et puis les paroles, Dieu, Jésus fils de Dieu, tout ça ce ne sont pas pour les musulmans quelque chose d'honorable, c'est plutôt blasphématoire. Et donc pour moi, quand il a découvert, il a dit « tu as ramené la malédiction à la maison ». Et c'est vrai que par la suite, quand on a commencé à avoir des problèmes, quand il m'a enlevé mes enfants dans son pays, je découvre l'adultère, il enlève mes enfants, je commence à tomber au plus bas. Et d'abord, il m'interne dans un hôpital psychiatrique, enfin voilà, et j'en passe des détails. Et c'est là, quand je me retrouve dans ce désert où j'avais tout perdu, et au final, lui a eu la garde des enfants parce qu'il a menti à mes filles en leur disant que je les avais abandonnées. Et là, je me retrouve dans un désert et à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai peut-être la Bible que j'ai ramenée à la maison, c'est peut-être, elle m'a porté malheur et tout ce que je traverse actuellement, eh bien, c'est Dieu, Allah, il est en train de me punir. Et dans ce désert, j'ai commencé à chercher vraiment à comprendre l'islam. Je me suis rendu compte, malheureusement, comme beaucoup de musulmans, on prie, on apprend par cœur des sourates, parfois on ne les comprend même pas. Et ce sont les premières victimes de cette doctrine, c'est les musulmans. Donc l'islam, je me dis, on est tous sur ce même chemin. Parce que la plupart des musulmans, quand ils commencent à chercher la vérité, souvent ils quittent l'islam. Alors soit pour aller vers l'athéisme, soit ils cherchent donc dans les sources chrétiennes et ils acceptent le Christ. Donc, et là, ça a été un chemin de assez long et avec des doutes, avec des peurs. Parce que même en découvrant tout ce qui était, mais pour moi, qui me semblait ne pas du tout venir de Dieu, ces vérités que je ne connaissais pas dans l'islam, dans le Coran et dans les hadiths, c'est-à-dire la biographie et la sunna, avec tout ce que je venais découvrir, j'en pleurais parce que pour moi, c'était pas divin. Ça ne pouvait pas venir de Dieu. Et j'ai pleuré, mais en même temps, il y avait au fond de moi, au fond de mon cœur, une voix, je ne savais pas que c'était l'ennemi à ce moment-là, qu'on ne connaît pas encore les combats spirituels, une voix qui me disait, mais Jamila, tu penses avoir découvert quelque chose, une vérité que 1,5 milliard de musulmans ne connaissent pas, tu te prétends plus intelligente et plus instruite que tous les grands imams de l'Azhar, etc., qui connaissent le Coran par cœur, qui le récitent beaucoup plus que toi, qui ont fait des grandes études théologiques, et toi, tu penses être meilleure. Et cette voix, et c'est vrai que je me suis inclinée, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est un peu prétentieux que je me dise que l'islam n'est pas la vérité, qui ne vient pas de Dieu. Et alors qu'il y a quand même tous ces gens...
cette petite voix a duré longtemps.
Oui. Tout à fait, oui. Bien sûr. J'ai eu beaucoup de combats. Hein. Dès que j'ai commencé, j'ai commencé à avoir des attaques. Je sentais une présence à chaque fois que j'étais seule, quand je dormais seule. Je sentais
vous
une présence.
Dans le livre, hein, vous décrivez très bien.
Tout à fait. Donc c'était une présence vraiment qui est démoniaque. Et je sentais, au moment où je me retrouve toute seule dans mon lit, quand mon mari partait aller au travail le matin, surtout, je sentais j'avais comme cette paralysie du sommeil et j'avais une voix qui me parlait, etc. Et il a fallu que ça a duré pendant plusieurs, à chaque fois que j'étais toute seule. Quand j'étais accompagnée, je sentais pas cette présence. Mais dès que je me retrouvais toute seule, donc je pensais même à un moment, je disais, mais je suis en train de devenir folle, c'est pas possible. Je pleurais, je me débattais pour me réveiller, jusqu'au jour où on est allé voir un prêtre. C'était un prêtre orthodoxe parce que mon mari, il était orthodoxe, mon second, donc quand je me suis remise en couple. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, c'est un combat spirituel, c'est démoniaque, c'est le démon. Et je suis allée à Lourdes, et c'est là où, après 20 ans, donc, je me retrouve à Lourdes, devant la Sainte Vierge. Et là, je me souviens de cette phrase où je me disais, à l'âge de 15 ans, j'aimerais être à sa place. Et là, j'avais pris de l'eau, apporté de l'eau de Lourdes, et une croix en bois. Et j'avais mis ça sous mon coussin, j'ai aspergé mon lit, et plus rien depuis. Cet être qui venait me tourmenter, eh bien, il avait disparu. Et donc, par la suite, j'ai commencé à chercher, mais qui est Dieu alors ?
La lecture de la Bible a été un moment clé, j'imagine, dans votre cheminement.
Tout à fait. Hein? Au moment où j'avais pris la Bible, quand j'étais avec mon mari musulman, eh bien, c'est vrai que ce qui était étrange, c'est que moi qui avais l'habitude de lire le Coran, parce que je lisais le Coran avant de faire ma prière, je méditais un petit peu, mais c'est toujours superficiel. On ne se rend pas compte à ce moment-là qu'on lit et c'était toujours à la surface. Je lisais, le Coran déjà veut dire récitation, donc on apprend des sourates et on les répète machinalement. Quand je lisais le Coran, ça restait, mais vraiment j'avais l'impression que c'est que les yeux qui lisent. Mais ce qui était étrange, c'est que la Bible, quand je l'avais ouverte, au milieu, c'était par curiosité, hein, je l'avais ramenée à la maison, c'était juste pour savoir, avec mon tempérament un peu curieux, qu'est-ce qu'il y a de si diabolique ou de mauvais. Et puis finalement, quand j'ai ouvert au milieu, simplement pour scruter ce qu'il y avait de pas bon. Et là, au départ, je ne savais pas hein, c'était quoi l'Ancien, Nouveau Testament. Moi, la Bible, pour moi, c'était la Bible et c'est tout. Et au milieu, aujourd'hui, je peux dire que c'était le Nouveau Testament parce que y avait le mot Jésus, etc. Et quand j'avais commencé à lire, dès les premières paroles, j'ai senti comme une force et j'étais plongée, comme si en fait mon âme entrait en profondeur dans cette parole. Et il y avait quelque chose qui venait, comme une connexion qui se faisait entre ma personne et la parole. Il y avait comme ce Dieu qui est en moi. En fait, il se reconnectait à quelque chose. Et à chaque fois que je lisais, ce n'était pas simplement mes yeux. C'est quelque chose de profond. Et plus je lisais et plus je me disais, ah oui, j'ai envie de lire. Et j'avais comme une soif. Je ne connaissais pas vraiment la soif que Jésus en parle. Et ça rejoignait un peu mon fer intérieur. Et ça me rejoignait complètement. Et je me disais à chaque fois, oui, c'est vrai, je pense la même chose, je pense la même chose. Et je savourais, en fait. Je savourais la parole.
Savourais la parole. Et méditer la parole aussi.
Absolument.
Et ruminer aussi la parole. Ruminer la parole. Nous enregistrons depuis la cité mariale. Vous êtes de passage. Vous préparez une conférence. Vous allez rencontrer aussi des groupes de jeunes. Et moi, je vous propose de vous retrouver demain, ici même, à la même heure. Merci.
Merci, Nathalie. Merci.